Vous êtes avec SBS French.
Les principaux titres de ce jeudi 7 octobre 2021. 70% de la population adulte est désormais vaccinée en Nouvelle-Galles du Sud, une progression qui a poussé le nouveau leader de l'État, Dominique Perrottet, à annoncer quelques changements concernant le plan de déconfinement. L'ambassadeur de France est en route vers Canberra. Il revient donc après avoir été rappelé à Paris il y a quelques semaines de cela, suite à la rupture du contrat par l'Australie, du contrat portant sur le programme des futurs sous-marins. Et puis au Vatican, le pape François a fait part de la honte qu'il ressentait suite à l'apparition en France d'un rapport sur les abus sexuels dans l'Église qui fait état de 330 000 victimes mineures depuis les années 50. Et c'est un cap important qui vient d'être franchi dans la lutte contre la pandémie de coronavirus. La Nouvelle-Galles du Sud compte désormais 70% de sa population adulte complètement vaccinée, un seuil qui va se traduire dès la semaine prochaine par l'allègement de certaines restrictions, en tout cas pour les personnes vaccinées, et ce alors que Sydney, quasiment toute la Nouvelle-Galles du Sud également, est confinée depuis 15 semaines. Le territoire de la capitale australienne vient aussi pour sa part d'atteindre un seuil important, 95% de primo-vaccinés au sein de la population âgée de plus de 12 ans. Et l'État du Victoria, qui recense aujourd'hui plus de 1600 nouveaux cas, n'est pas loin avec près de 85% de primo-vaccinés. En revanche, c'est moins bien au Queensland et en Australie occidentale. Il s'agit des deux seuls États qui, à ce jour, n'ont pas encore passé le seuil de 50% de la population ayant reçu les deux doses de vaccin. On revient à la Nouvelle-Galles du Sud. Dominique Perrottet a donc annoncé ce matin quelques changements au plan de déconfinement qui avait été élaboré par sa prédécesseure. Dès lundi 11 octobre, les personnes vaccinées pourront recevoir chez elles jusqu'à 10 adultes et à l'extérieur, les rassemblements pourront aller jusqu'à 30 personnes. Par ailleurs, les piscines couvertes vont rouvrir et on pourra avoir jusqu'à 100 personnes présentes aux mariages et aux enterrements. Enfin, quand le cap des 80% de vaccinés sera franchi, le port du masque au bureau ne sera plus obligatoire. Ces modifications, Dominique Perrottet a assuré les avoir décidées en concertation avec la médecin-chef de l'État, le docteur Kerry Chant.
Are these changes today are measured, sensible, and ensure that we open up in a very safe way? We discussed, I met yesterday for some time with Dr. Chant and with Minister Hazard. We ran through a whole range of issues. It's also an economic crisis as well. And as the new Premier, well, we're the elected officials and styles might be different and changes get made. But in my view, we had a very constructive discussion last night. And as the Health Minister has said, these changes are supported by the health team.
Enfin, sur ce déconfinement en cours en Nouvelle-Galles du Sud, précisons également que la possibilité de se rendre dans les parties rurales de l'État, ce sera autorisé seulement quand le cap de 80% de la population vaccinée sera atteint, un cap qui devrait lui aussi être franchi très prochainement. En tout cas, ce déconfinement qui se rapproche, il donne également de l'espoir au trésorier fédéral, Josh Frydenberg, qui ne doute pas que l'économie australienne va très vite rebondir. Sur Channel 7, il a estimé que le variant Delta a non pas fait dérailler la relance de l'économie, qu'il l'a simplement ralenti.
To see New South Wales open from Monday and people get back to work, and obviously this is the reward that people are getting for getting the jab. No jab, no joy, but if you've had the jab, as so many people in New South Wales have, indeed across Australia, then you'll start to get your freedoms back, and I think that's really important. But as for the economy, we're confident that it will bounce back as it has done before when we've gone into lockdowns previously.
Josh Frydenberg a également annoncé un durcissement des conditions d'accès à l'emprunt, une décision qu'il estime appropriée à un moment où les taux d'intérêt très bas provoquent une hausse significative des prix de l'immobilier. L'autorité prudentielle australienne a récemment demandé aux banques de relever leur niveau d'exigence vis-à-vis des emprunteurs et de leur capacité de remboursement. Jean-Pierre Thébault, l'ambassadeur de France en Australie, va revenir à Canberra. Il avait été rappelé à Paris il y a environ 3 semaines par le gouvernement qui avait ainsi souhaité marquer sa colère et même sa fureur suite à l'annonce faite par Scott Morrison de dénoncer le contrat portant sur l'acquisition de 12 sous-marins auprès du français Naval Group et de s'engager militairement plus avant encore avec les États-Unis et la Grande-Bretagne dans le cadre de cette alliance qu'on appelle AUKUS. C'est le ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, qui l'a annoncé hier lors d'une commission parlementaire. Une annonce qui peut paraître au passage surprenante dans la mesure où, à Paris, qu'il s'agisse d'Emmanuel Macron comme des autres membres du gouvernement, personne pour l'instant n'accepte de dialoguer avec l'Australie. Les coups de fil de Scott Morrison ou des différents ministres sonnent dans le vide. Pourtant, dans le cas des États-Unis, rappelons-le, l'ambassadeur n'est retourné à Washington qu'après une explication franche entre Joe Biden et le président français. Rien de tel entre Emmanuel Macron et Scott Morrison. Mais précisons enfin que ce retour à Canberra de Jean-Pierre Thébault ne signifie pas forcément la fin de la brouille entre Paris et Canberra. Pour s'en rendre compte, il suffit d'ailleurs d'écouter Jean-Yves Le Drian.
J'ai désormais demandé à notre ambassadeur de rentrer à Canberra avec 2 missions. Contribuer à redéfinir les termes de notre relation avec l'Australie à l'avenir. Et cette relation doit tirer toutes les conséquences de la rupture majeure de confiance avec ce gouvernement et défendre fermement nos intérêts dans la mise en œuvre concrète de la décision australienne de mettre fin au programme des futurs sous-marins. Il va sans dire que la remise à plat de nos coopérations bilatérales n'aura pas d'impact sur notre détermination à rester pleinement engagés dans la région Pacifique.
Voilà une intervention du ministre qui était retransmise sur la chaîne parlementaire. On reste en France où le rapport publié mardi sur les abus sexuels dans l'Église continue de susciter de nombreuses réactions à l'international. Le pape François lui-même s'est exprimé mercredi sur ce rapport sauvé du nom de son auteur, un rapport selon lequel 330 000 enfants ont été victimes d'abus et d'agressions sexuelles en France depuis les années 50. Le souverain pontife sur le sujet a fait part de sa honte, Éric Sénanc pour Radio France Internationale.
Hier déjà, le pape faisait part de sa douleur face à cette effroyable réalité de la pédocriminalité dans l'Église de France. Ce matin, en public, le souverain pontife a encore voulu redire toute sa proximité envers les victimes.
Je désire exprimer aux victimes ma tristesse, ma douleur pour le traumatisme qu'elles ont subi et ma honte. Notre honte pour la trop longue incapacité de l'Église à les mettre au centre de ses préoccupations, et je les assure de ma prière.
À 4 reprises, le pape évoque le terme de honte. François a souhaité encourager aussi les responsables de l'Église française dans la période qui s'ouvre désormais pour eux.
J'encourage les évêques et supérieurs religieux à continuer à faire des efforts afin que de tels drames ne se reproduisent pas.
Pour François, les révélations de la commission Sauvé sont une épreuve dure mais salutaire. L'évêque de Rome a invité également les catholiques français à assumer leurs responsabilités pour garantir que l'Église soit une maison sûre pour tous. 4 évêques français de passage à Rome ont prié en privé avec le pape avant cette audience générale. Un moment de prière silencieuse, un temps de prière de conversion pour demander pardon, a commenté l'un d'entre eux, Mgr Gobillard, l'évêque auxiliaire de Lyon. Éric Sénanc, Rome, RFI.
L'Organisation mondiale de la santé a autorisé la mise en circulation du premier vaccin contre le paludisme, la malaria, et il recommande sa distribution aux enfants à travers le continent africain. Tedros Ghebreyesus, le directeur général de l'OMS, espère que ce vaccin permettra de freiner la propagation de cette maladie qu'on attrape généralement en se faisant piquer par un moustique.
I started my career as a malaria researcher and I longed for the day that we would have an effective vaccine against this ancient and terrible disease. And today is that day, an historic day. Today, WHO is recommending the broad use of the world's first malaria vaccine. This recommendation is based on results from an ongoing pilot program in Ghana, Kenya, and Malawi that has reached more than 800,000 children since 2019.
Ce vaccin qui s'appelle Mosquirix est une création du laboratoire GSK, n'est toutefois pas un remède miracle puisque son taux d'efficacité n'est que de 30%. Par ailleurs, cette efficacité, elle s'émousse très rapidement, 4 mois seulement après que ce vaccin ait été administré. Par ailleurs, pour qu'il soit efficace, ce vaccin nécessite 4 doses différentes. Néanmoins, les scientifiques pensent que ce vaccin pourra avoir un impact majeur en Afrique où le paludisme est contracté chaque année par 200 millions de personnes et 400 000 d'entre elles en meurent. Pour finir, on jette un coup d'œil à la météo du jour en Australie. 21 degrés et des nuages aujourd'hui à Perth, 17 à Adélaïde, 16 à Melbourne, 14 à Hobart, 21 et du soleil à Canberra, 30 degrés à Sydney, en revanche, où le soleil est un peu plus timide. 28 degrés à Brisbane, où là aussi le ciel est nuageux. 32 à Cairns et jusqu'à 35 degrés à Darwin, resté à l'ombre.
Aimez, partagez, commentez. Suivez-nous sur facebook.com/sbsfrench.